RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story avec aujourd'hui Charles Consigny, Didier Giraud, Barbara Lefebvre. Dans une heure, on aura le duel, la battle, la Consigny battle, le duel,
le MMA
familial, l'octogone. Charles Consigny et sa tante, l'actrice Anne Consigny, qui a signé la tribune anti-canal, anti-Bolloré, ce que n'aurait pas fait Charles. Et ils en débattront tout à l'heure avec nous à partir de 11h. D'ici là, c'est la deuxième heure des GG. On va regarder comment se met en place, parce que samedi, je peux vous dire qu'Olivier compte les heures, et parce que samedi, c'est la finale de la Ligue des Champions.
Le maillot est prêt.
Voilà. Samedi, finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Si le Paris Saint-Germain gagne, il y aura peut-être une célébration au Champ de Mars, c'est-à-dire sous la Tour Eiffel. Mais du côté de la préfecture, on a mis une condition.
Oui, il faut que ça se passe bien la veille. C'est-à-dire, le match est à 18h. Il faut avoir, il faut se souvenir de l'horaire. Hein, 18h, c'est-à-dire que la soirée peut être très très longue en cas de victoire.
Pourquoi il fait ça ?
Si ça se passe mal, ben justement.
Parce que c'est à Budapest et qu'à Budapest, il y a un décalage horaire. On n'est pas à l'heure d'été. À Budapest, on n'est pas à l'heure d'été.
Oui, mais
je pense
même,
qu'en avançant aussi l'heure, ils pensent que c'est moins tard le soir, donc on évite aussi les problèmes.
Choisit l'horaire.
Bref, en tout cas, la soirée peut être longue et peut mal tourner. Si elle tourne mal, il n'y aura pas de célébration le lendemain, le dimanche. Le Champ de Mars, alors l'année dernière, c'était Champs-Élysées, mais en fait, le premier choix l'année dernière, c'était Champ de Mars, mais c'était pas possible, ils n'étaient pas disponibles. Ah. Mais est-ce que le Champ de Mars va se transformer en champ de ruines ? C'est le risque.
Il n'y a pas de décalage horaire avec Budapest.
Hein. Non, il dit n'importe quoi, Didier.
Non.
Mais il n'y a pas d'heure d'été.
Mais non, mais j'ai pas.
Mais chez
nous, il
est
à la même heure que chez nous, il est 10h là.
Mais tu m'as embrouillé, ton
truc.
Mais
si.
Non, l'heure, c'est pas pour ça que
mais
c'est à 18h.
Si, 18h,
c'est pour.
Il joue à 18h à Budapest.
C'est pour avoir un public plus familial, etc.
Et puis c'est aussi question de décalage par rapport aux autres pays pour la Mondiovision, la diffusion mondiale.
Ah,
bon, enfin,
midi, alors.
Est-ce que vous pensez que ça se passera bien ? Est-ce que prendre le Champ de Mars pour la célébration, c'est une bonne idée d'un éventuel titre du Paris Saint-Germain ? On en parlera tout à l'heure à 11h-20. En attendant, on va regarder la politique, les sondages du moment, le potentiel deuxième tour, Bardella en tête, et ça se resserre entre Jean-Luc Mélenchon et Doudou et Édouard Philippe. En fait, c'est le baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale qui est publié aujourd'hui. Alors Jordan Bardella, si on se fie, toujours pareil, hein, on n'est pas en 2017, c'est la photo du moment. Jordan Bardella,
2027.
On est en 2027.
Pitié, ne nous fait pas retourner en 2017.
C'est la photo du moment, c'est Jordan Bardella à 30-32% d'intention de vote. Et qui pour la deuxième place alors ?
Eh bien, c'est très serré puisque Édouard Philippe est à 17% et Jean-Luc Mélenchon est à 16%. Dans ce sondage Odexa, Édouard Philippe perd 4 points, Jean-Luc Mélenchon en gagne 4. Et donc, on est dans les marges d'erreur. C'est-à-dire qu'à tout juste un an de l'élection présidentielle, l'écart n'a jamais été aussi serré entre les deux hommes qui pourraient donc obtenir ce fameux ticket permettant d'accéder au second tour, de se retrouver face à Jordan Bardella. On voit bien que la dynamique Mélenchon est amorcée depuis sa déclaration de candidature. En revanche, Édouard Philippe, qui avait bénéficié dans les sondages un petit rebond lorsqu'il avait été réélu maire du Havre, là, il patine. Édouard va-t-il subir le sort d'un autre Édouard il y a 30 ans, Édouard Balladur ? C'est ce que pense notamment l'un de ses adversaires, Gabriel Attal. La baladurisation d'Édouard Philippe est en marche et Jean-Luc Mélenchon est dans une dynamique qui pourrait lui permettre d'accéder au second tour. Et donc, la prophétie Mélenchon-Bardella au deuxième tour se réaliserait.
Alors, à votre avis, qui est le mieux placé là pour parvenir au deuxième tour, si on se fie juste à ce qui se passe en ce moment ? Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, 32-16, monsieur Charles Consigny ?
Didier, ça attendait, tu peux t'exprimer en premier si tu le souhaites.
J'ai entendu
prendre sa respiration.
Je voyais qu'il me regardait, je suis parti.
Mélenchon, personne n'ignore qu'il a beaucoup de talent, que son mouvement est un mouvement militaire, efficace, organisé. Et vous savez, on dit qu'en politique, je crois que c'est Mitterrand qui disait ça, un professionnel naze ira toujours plus loin qu'un amateur excellent. Et donc, Mélenchon est un professionnel excellent. Donc, il y cumule carrément les deux manières d'y arriver. Même si moi, je continue à penser que s'il est au second tour, il est à peu près le seul, même si, bon, là, les sondages expliquent que même Philippe serait battu par Bardella. Mais enfin, je pense quand même qu'une fois vraiment au pied du mur, si les Français ont à choisir entre Mélenchon et Bardella, je crains qu'ils choisissent Bardella. Alors que s'ils ont à choisir entre Philippe et Bardella, je pense quand même qu'il est possible qu'ils choisissent Philippe.
Ce que dit pas ce sondage, puisqu'au second tour...
C'est ce que j'ai dit.
Mais c'est plus serré.
Après, moi, je trouve que, si vous voulez, Philippe, il a quand même résisté à une espèce d'épreuve du temps, là. Ça fait quand même très longtemps qu'il est positionné, etc. Il s'est pas écroulé, contrairement à ce que beaucoup prétendaient.
Il était en train de s'écrouler.
Je pense que il est trop, je l'ai regardé l'autre jour, il a fait une émission de télé, je sais plus si c'était vendredi ou un jour comme ça. Il est trop en fond de course, si vous voulez. Il a un côté, ça me fait mal de dire ça parce que, c'est vraiment le truc bateau, mais en le regardant, je me suis dit, il faut qu'il fende l'armure. Vous savez, c'est le truc que disent tous les éditocrates depuis des années. Mais je le pense vraiment. C'est-à-dire que il se prend quand même beaucoup au sérieux. Il a des réponses infrasées, des raisonnements qui sont compliqués. Alors que je suis sûr qu'au fond, il est quand même un peu plus simple que ça. En tout cas, je l'espère pour lui. Moi, l'image qu'il avait jusqu'ici d'être une espèce de quinquagénaire cool et stressé, c'était pas si mal. Si j'étais lui, je retournerais à ça. D'autant que je crois honnêtement, vous savez ce que j'en pense, moi je pense que la candidature du jeune Attal n'est pas sérieuse. Je pense qu'il est trop jeune et trop inexpérimenté pour ce poste et que, à mon sens, pour l'instant, elle a plutôt eu pour effet de crédibiliser celle d'Edouard Philippe. Mais si j'étais Philippe, je serais plus cool et plus, comment dire, plus au filet qu'en fond de cours.
Barbara, est-ce que tu es surprise par cet écart qui se resserre entre Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe pour la deuxième place?
Non, parce que bon, on est à 11 mois de l'élection, oui, donc autant dire que ça a le temps de changer, rechanger.
On commente à un instant T.
D'autant plus que Monsieur Philippe a le PNF qui le guette, donc ça va bien.
Il y a un juge qui a été nommé d'ailleurs.
Voilà, faut se dépêcher hein, quand même. Il va falloir mettre les petites peaux de banane là où il faut. Hein. Ils nous l'ont fait les deux dernières. Là, ils y vont, là, ils sont trop contents.
Le PNF, il y avait le patron du PNF, du Parquet National Financier ce matin sur RMC, qui disait qu'il était là au contraire pour la démocratie.
Ah, bon, bah ça va, alors je suis rassurée. Oui, pour faire un marchepied à Mélenchon, c'est vrai que c'est la démocratie. Non, le problème d'Edouard Philippe, comme l'a dit Charles, c'est qu'il n'y a pas de dynamique, mais se déclarer trop tôt, parler trop peu pour ne pas dire grand-chose, bah, c'est sûr que ça ne va pas vous donner l'élan pour gagner des points dans les sondages, parce que les sondages aujourd'hui, on pourrait se dire, bon, ça sert à rien, on est dans 11 mois, ça n'a pas d'intérêt. Si, en tout cas, pour les candidats du centre, c'est important, parce que là, ça va être la course de petits chevaux, on va dire, jusqu'en novembre, à savoir entre Darmanin, Attal, Philippe, et n'oublions pas les Bertrand et compagnie, parce qu'il y en a d'autres hein, qui traînent derrière, mais en tout cas, les trois principaux, Attal, Darmanin et Philippe, les sondages permettent quand même d'évaluer lequel doit avoir, on va dire, les primatures de tous les autres. Donc ces sondages-là, ils sont importants. Quand tu te prends 4 points dans la tête et que c'est Mélenchon qui a deux doigts de te passer devant, ben, Darmanin et Attal se frottent les mains en disant « Edouard Philippe, ben, tu vois, mon gars, on t'avait dit, c'est ta ligne. » Mais d'ailleurs, quelle est sa ligne ? Édouard Philippe a été ministre de Macron. Dernièrement, il nous dit qu'il faut qu'il démissionne. Après, il fait rétropédalage parce que bon, il se dit non, quand même, j'ai un peu craché dans la soupe. Il a pas de programme. Il arrête pas de dire, je vais avoir un programme de rupture. Moi, j'ai écouté son meeting. J'ai cherché où était le programme de rupture. Il n'y a pas de programme de rupture. La rupture, ce serait faire du Milei. Ou même, au pire, aller un peu du David Lisnard. C'est autant vous dire, la rupture, on n'en est pas là. Mais au moins, non, on n'en est pas là. Il est en train de rabâcher et de ressasser. De l'autre côté, Monsieur Mélenchon, moi je dis stratégiquement chapeau, la stratégie de Mélenchon, qui est la haine, la rancœur, la rancune, et nous annoncer avec fierté le grand remplacement, parce que il nous a expliqué que Zemmour avait raison de parler de grand remplacement, puisque c'est la nouvelle France, et nanine, et nanana. Moi je dis bravo, et Mélenchon va continuer sa stratégie de tension, de haine racialiste, parce que c'est ça qui, c'est son moteur. C'est le moteur de Mélenchon. C'est la provocation. C'est la tension. Et puis, vous allez voir, à partir de octobre, novembre, de nouveau roudoudou.
Ah oui, oui, ça va être.
Roudoudou, charmant, je te mets la petite cravate, j'arrête avec le col Mao.
Ça va être Raffarin.
Ah oui, Staline, va, Staline, Mao, Trotsky, va
défendre les valeurs de la République.
Et là, voilà. Il va passer de Mao à Raffarin.
Il va sauver la République au mois de novembre.
Et vous verrez qu'on n'entendra plus les portes, les soudées,
le
et les
bah, Rima Hassan. Beaucoup, hein.
Oui, oui, bah, ils vont être encore. Regardez, on n'entend plus du levier, tout ça.
D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il met en avant Clémence Guettet.
Voilà, Clémence Guettet. Bah, c'est-à-dire tous les tout blancs, tout moches, quoi. Donc, ça va être ça le problème. Et il y a un moment, on peut pas faire une campagne et ensuite finir sa campagne avec les tout blancs tout moches. C'est lui, hein. Moi, c'est moi. Oui, moi, c'est je ne fais que reprendre les termes de...
Alors, Didier, est-ce que tu y crois à cet écart qui se
non, non, mais je conteste pas la dynamique Mélenchon et Charles l'a très bien expliqué. Le vieux singe, il s'est grimpé aux arbres. Non, mais voilà, oui, il sait faire et
quatrième voilà. Candidature.
Après, moi, il y a un truc qui m'interroge là-dedans, en dehors du fait qu'on va faire des sondages à Angemont à l'avance. À part nous faire causer, je vois pas à quoi ça sert. Comment des anciens premiers ministres de Macron peuvent s'imaginer à l'Élysée? J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans leur cerveau pour imaginer ça. Parce
ils
que
imaginent qu'ils,
à la
qu'ils
fin
ont
du fin, c'est pas les sondages à la fin du fin. C'est les mecs dans l'isoloir. Et les mecs dans l'isoloir qui, contrairement à Barbara, ont pas 6 heures d'antenne, pour exprimer tout le mal qu'ils pensent du macronisme. Les mecs dans l'isoloir, eh ben, c'est à ce moment-là qu'ils vont régler les comptes avec le macronisme. Et moi, je crois que tous les anciens premiers ministres, ils sont d'ores et déjà
mais
grillés.
Tu dis les sondages, mais je suis pas d'accord avec toi. Les sondages sont...
Ils vont servir au gaz départager.
C'est,
okay,
cette année, non, laisse-moi, c'est primordial cette année. Pourquoi? Parce que Édouard Philippe lui-même a dit, je refuse la primaire.
Oui.
Si tu refuses la primaire, tu te départages avec les sondages.
Voilà,
ben oui.
Et donc, un ancien premier ministre, que ce soit Attal ou Édouard Philippe,
autre chose,
ne
ça.
Pourra pas aller à l'Élysée.
Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais ils ne peuvent pas dire, les sondages, on en a rien à faire. Ils sont rivés aux sondages parce que Édouard Philippe, sa légitimité, c'est ses sondages. Tant qu'il domine dans les sondages,
c'est la même chose,
les Gabriel Attal, les Darmanin, c'est-à-dire les gens du bloc central, ils s'imposent. Le jour où il fera autant que Gabriel Attal, eh bien, tous ceux qui disent il faut une primaire diront, bah, voyez, elle s'impose la primaire puisque personne. Là, il sera obligé d'accepter une primaire.
Quand il sera doublé,
mais le problème est exactement le même à LR, à tous ceux qui n'ont pas passé par.
Mais non, LR, c'est Bruno Retailleau.
Oui, enfin, t'as tous les un peu dissidents là qui aimeraient bien y aller. Et puis qui aujourd'hui se disent, si Bruno Retailleau s'écroule, ça nous ouvre une porte.
Mais c'est pas tout à fait la même chose. Vraiment, le bloc central, c'est primordial, les sondages. Donc, c'est pour ça que Gabriel Attal, il va faire feu de tout bois. Il fait feu de tout bois parce qu'il pense qu'il peut grignoter, se rapprocher d'Edouard Philippe. Et à un moment donné, Edouard Philippe sera pas le candidat naturel.
Parce que tu penses que le cirque à Mur-en-Barèze, là, ça fait grignoter.
Ça, c'est dans la
ville. Dans le monde rural, là.
Mais c'est pas le monde rural qui vise, mon pauvre Didier. Tu crois que Gabriel Attal, il vise le monde rural?
Alors qu'il va faire à Mur-en-Barèze.
Mais pour se donner une image de proche de la France, c'est tout, proche de la France.
Parce que les gens fantasment là-dessus. Les gens qui à Paris, ah, c'est bien, il connaît le terroir, etc. Mais c'est quand même le Parisien qui votera
Gabriel
Attal.
Et de la même façon que M. Darmanin nous fait sa sortie sur l'immigration.
Quand il est en Corrèze,
il nous fait sa sortie sur l'immigration il y a 24-48 heures. Il était ministre de l'Intérieur, maintenant il est ministre de la Justice. Alors, je vais te dire, tu évoquais la question des ministres de Macron. Darmanin, lui, il y va jusqu'au bout, ministre de Macron. Donc, il aura une carrière à la Rachida Dati. Rachida Dati, si elle a perdu Paris en dehors de sa campagne, c'est aussi parce qu'elle était ministre de Macron et qu'elle avait lâché son camp. Donc tous ces gens ne comprennent pas que Macron est radioactif, c'est tout.
Il y a la
focalisation
sur les candidats. Non, rien qu'un peu.
Il y a la focalisation sur les candidats, mais moi je pense que cette année, sur cette élection, c'est les programmes qui vont prendre le pas. J'en suis convaincu. Les programmes, quelle ligne pour la France? J'en suis convaincu. Et là, les deux lignes les plus claires, c'est quand même le Rassemblement National et c'est la France Insoumise. La France Insoumise,
le Rassemblement
c'est clair.
National, t'appelles ça une ligne claire?
Bah, si
aujourd'hui, t'as RN. Deux têtes, il y en a une qui dit la retraite à 60, l'autre à 62, puis il ouvre la porte à plus.
Bah, d'accord.
Je veux dire, à un moment donné,
t'as un projet
qui marche au moins sur des jambes qui sont claires, c'est la lutte contre l'immigration, la lutte contre la sécurité.
Sur l'économie, c'est pas la sécurité.
J'ai pas l'économie, il y a peut-être un petit peu de
et Jean-Luc. Mais à deux doigts d'être sous tutelle du FMI, donc autant te dire, le RN, ils ont intérêt à muscler leur programme.
Le seul qui est prêt, c'est Mélenchon pour moi.
Voilà. Jean-Luc Mélenchon, il le dit, on a un candidat, c'est moi, on a une équipe et un programme, c'est carré. Et quand tu regardes son programme, c'est assez carré.
Il est tout le temps prêt, son programme. C'est le même qui a 7 ans, c'est le même qui a 14 ans, il est tout le temps prêt.
Oui, c'est le leader Maximo.
D'accord, mais si tu veux, là en plus, et il a théorisé un nouvel électorat qui va voter pour lui.
Oui, mais comment peut-il imaginer, en faisant, là il fait 15%, imaginons, il fait 16, bon, imaginons, il se qualifie en faisant 16, 17, 18, limite, comment peut-il imaginer être président de la République
mais
en n'ayant fait que ça
président,
au premier tour.
Ils veulent l'insurrection, il te l'a dit, Bakayoko et tout, bah,
je pense que s'il accède au deuxième tour.
Les Antifa dans la rue,
non,
les Raphaël Arnaud et tout, c'est, mais si,
mais
ça
non,
va être ça.
Ça, c'est pour eux, c'est pour amuser la galerie.
Ah, bah, tu verras.
Et lui,
ah,
il pense qu'en arrivant au deuxième tour, il sera.
Samuel, bonjour, notre ami radiologue du côté de Strasbourg. Bonjour, Samuel.
Bonjour aux grandes gueules.
Bienvenue Samuel. Alors à votre avis, là, vu ce qui se passe, Philippe Mélenchon, qui est le mieux placé pour aller au second tour, si on suit au sondage du moment, hein, je le rappelle.
Oui, alors les sondages, c'est bien gentil, mais je rappelle juste que M. Attal a quand même dit qu'il resterait, si les sondages sont favorables au mois de janvier, il devrait, M. Philippe devrait céder sa place pour M. Attal.
Ben oui.
Et vu l'ambiance qu'il y a entre Mme Thévenot et les amis de M. Édouard Philippe, ça m'étonnerait, puisque je me souviens ce qui s'est passé au deuxième tour des élections municipales, quand on lui a posé la question, M. Édouard Philippe a fait qui ça? Ah oui, le mec d'Horizon. Donc je pense que les tensions sont très fortes. Donc je pense pas que M. Édouard Philippe va rassembler le bloc macroniste, parce que je pense que les tensions entre Attal et Édouard Philippe sont très,
enfin, vous
très,
savez,
très
je pense que Prisca Thévenot, c'est pas non plus un soutien de poids majeur qui sera déterminant dans l'élection présidentielle pour Édouard Philippe.
Mais alors, qui voyez-vous, okay, vous, alors, okay, Jean-Luc Mélenchon ou Édouard Philippe, on va se rapprocher de
l'élection?
Déjà, il
faudra voir si M. Philippe n'a pas de problème juridique. Donc, je rappelle juste que le parti financier a une plainte contre lui. Donc, je veux dire, tout ça, ça va se jouer, on va jouer dans le bas du caniveau, c'est-à-dire qu'on va, les Mélenchons vont profiter qu'il y ait ce problème-là, et puis on verra bien les effets divers, les faits d'actualité, ce qui se passe dans le monde, si maintenant il y a encore une autre guerre qui se passe autre part, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc pour l'instant, à 11 mois d'élection, moi je suis désolé, c'est jouer à qui perd gagne, et personne ne sait qui va être au deuxième tour. Il faut juste rappeler qu'il faut les maires, parce qu'il y a aussi les histoires des 500 signatures.
Tout à fait.
Et si M. Attal et M. Édouard Philippe sont candidats, ça va bouffer beaucoup de maires.
C'est vrai aussi.
Donc,
enfin, il y a 36 000 communes, il faut faire sa signature. Maintenant, la plupart des maires ne veulent pas se prononcer. Il n'y a pas d'obligation pour le maire d'apporter sa signature.
Mais t'as pas que les maires.
Oui, mais je pense que ça peut poser problème, notamment à Gabriel Attal.
Samuel, on va voir ce qu'en disent ceux qui continuent de nous appeler au 32-16. Philippe Mélenchon, qui semble le mieux placé pour aller au deuxième tour de l'élection présidentielle. 32-16 pour continuer d'en discuter avec les GG, avec les grandes gueules, sachant que pour le moment, ce sondage de Toxa pour la presse quotidienne régionale continue de donner Jordan Bardella en tête à plus de 30% d'intention de vote. Allez, à tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous bien sûr au 32-16, avec Charles Consigny, Didier Giraud, avec Barbara Lefebvre. Je regardais là pendant la pub, on en discutait, parce que là on est sur le sondage sur l'élection présidentielle, qui pourrait aller au deuxième tour, sachant que c'est Jordan Bardella qui est toujours donné en tête des intentions de vote. Ensuite, visiblement, il y a une bagarre là, hein, à date, hein, une bagarre entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. Mais on rappelle que pour aller déjà officiellement à l'élection présidentielle, il faudra avoir les 500 signatures. Du coup, c'est toujours bien de revoir un peu qui peut donner...
Révision.
Qui peut donner les 500 signatures? Alors, qui peut donner les 500 signatures? Ça fait entre 42 000 et 45 000 élus potentiels qui peuvent les donner. On a les maires délégués... Les maires d'arrondissement, ça c'est PLM, Paris, Lyon, Marseille. On a les conseillers régionaux, les conseillers départementaux. On a les présidents d'EPCI, c'est-à-dire les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes. Les élus de Corse, les élus d'outre-mer, les élus nationaux et européens, les députés et sénateurs, les députés européens, voilà, bien sûr.
Les chroniqueurs
et les trois règles
juges
à respecter. Un élu, une seule signature. 500 signatures qui viennent d'au moins 30 départements, plafond par département, pas plus de 50 signatures, soit 10% au total.
C'est pour ça que c'est pas si simple,
c'est
contrairement
une
à ce que vous avez dit. Et même des gens comme Gabriel Attal, sachant que Renaissance n'a pas non plus beaucoup d'élus dans énormément de départements, ça va être un combat. Et d'autant plus que tous ces élus ne sont pas obligés de parrainer, comme ce n'est plus anonyme. Avant, c'était anonyme.
Moi, je connais beaucoup de maires qui ne parrainent pas par peur des représailles.
Qui n'ont pas envie de se faire menacer, parce que maintenant, on se fait menacer menacés de très rapidement, donc ils ont pas envie de représailles et donc ils préfèrent botter en touche et pas parrainer.
Et je trouve que cette règle de rendre ça public, c'est une connerie.
Mais oui, bien sûr.
C'est une connerie parce que moi je connais des maires qui à l'époque donnaient leur voix, des maires ruraux qui étaient sans étiquette, donnaient leur voix à un petit candidat justement pour faire exister le débat démocratique.
Ouais. Et aujourd'hui n'est pas forcément d'ailleurs un soutien.
N'est pas soutenir et je pense que ça les gens l'ont pas compris. Et aujourd'hui t'as quand même plein d'affaires où dès que le nom de leur maire est divulgué comme soutenant, hein, enfin comme amenant sa signature à un tel ou à un tel, il y a une réaction dans les communes et moi je connais plein de maires sans étiquette qui ne vont pas donner de leur signature.
Après, on peut demander à ton conseil municipal, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous parrainions un candidat à l'élection présidentielle?
C'est d'autant plus intéressant
lequel.
C'est d'autant plus intéressant que tu aies rappelé ce système de nomination que Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, en 10 ans, en 10 années, n'a même pas réussi à s'enraciner dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les macronistes qui tiennent Paris, qui tiennent toutes les grandes institutions, les conseils d'État, les conseils constitutionnels, la Banque de France, le Cour des comptes, etc. Alors qu'ils n'ont aucun ancrage territorial, que les élections régionales, les élections municipales, ils n'arrivent à rien. Ils ont quelques petits points et à chaque fois, ils t'en font tout un cinéma comme si vraiment ils avaient réussi à décrocher. Les vrais partis enracinés, ça reste les LR, ça reste le Parti Socialiste. RN, au nord et au sud, ont réussi à s'enraciner un petit peu. La LFI a réussi quelques prises. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais quand même. Le Renaissance, qui pourtant tient toutes les manettes, est en train de tout verrouiller pour 2027, ils n'ont pas d'ancrage territorial. Donc c'est très, très révélateur de la situation du...
Contrairement à LR, c'est d'ailleurs...
Parce que leurs élus arrivent d'ailleurs.
Non, mais c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du bloc central qui pourrait se qualifier au deuxième tour. Bruno Retailleau est quand même derrière, alors que les LR sont beaucoup mieux implantés localement et représentent peut-être plus les Français finalement aujourd'hui.
Ça, c'est sûr.
Et d'ailleurs, pour revenir à Édouard Philippe, le problème d'Édouard Philippe, à mon avis, un autre problème pour Édouard Philippe, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite qui estiment qu'Édouard Philippe n'est pas de droite.
Ah bah non, il n'est pas de droite.
Et qui n'ont pas envie de voter Édouard Philippe. Et même si Bruno Retailleau se retire de la course, on peut le penser s'il n'arrive pas à faire plus que 9-10%, est-ce que tous les électeurs de Retailleau voteront Philippe? Je suis pas sûr. Ça pourrait aussi se reporter sur Bardella ou sur Éric Zemmour ou sur Dupont-Aignan.
Et pas qu'au deuxième tour.
Voilà, je parle du premier tour.
On va continuer d'en discuter avec vous. Bien sûr, on a Cyril qui est notre ami apiculteur du côté de Saint-Malo. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait aller au deuxième tour, alors, selon vous?
Alors, je ne crois pas du tout que M. Mélenchon puisse aller au deuxième tour. Je pense qu'il fait peur à un grand nombre de gens, y compris les gens de gauche. Voilà. Mmh. C'est pas un problème de gauche. Je vous cite un exemple. L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est un problème sur lequel il ne reviendra pas. C'est-à-dire que le code du travail, par exemple, avant la réforme, les sanctions pour les employeurs étaient de 6 mois minimum. Maintenant, c'est de 6 mois maximum. Et Charles Consigny peut vous en parler. Tous les avocats qui font du droit du travail en sont tout à fait maris, puisque ça ne vaut plus le coup d'aller au prud'homme. Et ça, c'est une réforme sur laquelle M. Mélenchon n'a pas l'intention de revenir. Voilà.
Ouf.
Ah non.
Pourquoi vous pensez ça?
C'est pas dans son programme.
Mais voilà. Vous dites qu'il y a trop de radicalité. Ça, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon.
Alors, non seulement trop de radicalité, mais c'est pas un problème de gauche. Monsieur Mélenchon ne remettra pas, ne changera pas l'organisation de la société. Il remettra pas en cause
l'organisation
capitaliste de la société. Le seul parti qui serait mesure de le faire, qui a le programme pour, c'est Lutte Ouvrière.
Non, il veut le remettre en cause. Est-ce qu'il y arrivera, est-ce qu'il y parviendra, c'est autre chose. Mais en recréant, vous voyez, un gros pôle bancaire public, en voulant renationaliser les autoroutes, en voulant reprendre en main le secteur
de l'énergie. On a des super autoroutes.
Il a quand même des nids de poules
dans les autoroutes.
Il a quand même un programme. Oui, il veut que l'État reprenne la main sur beaucoup de choses.
Je sais pas où il va prendre l'argent pour acheter des entreprises.
Les autoroutes, c'est un billet de 55 milliards.
Oui, voilà.
Après, derrière, qui a lui qui va le financer. Alors, Cyril n'y croit pas vu la réalité. Jordan est avec nous des Hauts-de-Seine. Bonjour Jordan.
Manger les riches, hein, LFI. Hein. C'est ça.
Jordan, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon pour le deuxième tour? À l'heure où on se parle, hein,
en tant que président du RN,
alors,
qu'est-ce que...
J'espère aucun des deux. Hein. C'est vraiment. C'est...
Pourquoi?
Enfin, moi, revivre un simulacre de législative 2024 avec un truc à trois entre Bardella, Mélenchon et puis bon, là sera Philippe à la place d'Attal. Enfin, c'est au secours parce que bon, ces trois programmes, en gros, qui sont des continuités de, on va dire, du socialistan dans lequel on est, où on a des programmes qui sont complètement déficitaires économiquement.
Bravo, Jordan.
Ils ne résoudront pas les soucis. Donc, enfin, pour moi, c'est la même tambouille. Alors, en regardant le législatif 2024, le programme d'Attal, c'était 40 milliards de déficit supplémentaire. Le RN, c'était 120 milliards. Et Mélenchon, c'est 280 de plus. Hein. Je veux dire, il n'y en a aucun qui va dans la bonne direction. Donc, faire la politique du moins pire, moi, ça ne me va pas, personnellement. J'espère une alternative vraiment qui va dans l'autre sens.
Une alternative LR libérale, c'est ça, c'est ce que vous
LR
voudriez.
LR n'est pas libéral, hein. On aurait bien aimé qu'il le soit, mais il le soit.
Alors,
pas,
j'ai oublié la virgule. LR, virgule, libéral, on va dire oui, ça comme ça.
Bah, vous seriez après, plus à la limite David Lisnard, quoi, vraiment.
Oui, enfin, c'est pour moi, c'est lui qui va dans la meilleure direction, mais enfin, bon, il n'y a rien de parfait. De toute façon, c'est impossible d'être d'accord avec un candidat à 100%, mais dans ceux qui existent, pour moi, c'est celui qui va le plus dans la meilleure direction. Le problème, c'est que la mentalité française est tellement ancrée dans le collectivisme que faire changer les choses, c'est très compliqué. On a une culture économique qui est abyssale en France. Regardez le nombre de gens qui pensent encore que la retraite par répartition, c'est finançable. C'est quand même vraiment dramatique. Donc, à moins de faire du martèlement médiatique pour essayer de faire comprendre aux gens que bah, le modèle dans lequel on est, il a fonctionné
il
à une
mort.
Époque avec une démographie certaine qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans la démographie actuelle. C'est juste une question de démographie. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut s'adapter. Tous les pays ont fait leur mue depuis 20 ans. Enfin, ça a commencé par prendre la Suède ou la Nouvelle-Zélande dans les années 90. Ça a continué dans les années 2000. Et nous, la France, on refuse de faire notre mue par rapport à l'actualité. Et je veux dire, c'est même pas une question de social, de droite, de gauche, etc. Regardez, il y a des pays qui sont soi-disant de gauche comme les pays nordiques, et pourtant ils ont fait une mue libérale au niveau des entreprises. C'est même pas une question de gauche ou de droite. C'est
juste et ils ont la retraite à 70 ans.
Voilà.
Non, pas autant.
Et puis ils ont surtout une retraite mixte avec un fonds de base, on va dire, de répartition qui est au niveau RSA et équivalent, et le reste par capitalisation, parce que sinon on ne s'en sortira pas.
Donc. Jordan, je me permets juste, je ne crois pas que les Français soient collectivistes. Les Français sont étatistes. C'est pas exactement la même chose. Non, mais parce que, je veux dire, dans leur histoire, que ce soit l'histoire monarchique ou l'histoire même du 19e, de ces je veux dire, réétudier l'arrivée de la Seconde République, il y a une révolution, c'est la Seconde République, premières élections, c'est les monarchistes qui gagnent.
Oui.
Donc, la Troisième République. Est instauré, gouvernement provisoire. Premières élections, c'est les monarchistes qui gagnent. Donc, les Français, ils ont ce goût de la personnification du pouvoir. C'est pour ça que Mélenchon
de la cohabitation.
Ouais, et ensuite, effectivement, de pouvoir faire vivre des choses qui normalement ne devraient pas vivre. La Seconde République, les monarchistes. La Troisième République, les républicains ont fait leur place. Mais, je veux dire, il y a cette volonté de croire chez les Français qui est complètement dans un inconscient collectif. Un homme ou une femme peut nous sauver. Ah, il peut tout faire. Dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui, dans l'Europe de Schengen, je n'arrive pas à comprendre, et avec ce qu'on a vécu pendant le Covid, j'arrive pas à mesurer l'ampleur de cet inconscient collectif pesant qui fait qu'ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui c'est terminé. On peut plus avoir un homme à la De Gaulle qui va venir tout régler. Et ceux qui se présentent aujourd'hui et qui font des campagnes en faisant croire quand j'arrive, il se passera ça, il se passera ça. Mais non, il y a la mondialisation, il y a l'Europe qui vous tient par tous les bouts. Donc c'est terminé cette époque-là. Donc il faut quelqu'un soit à la Milei qui casse un bon coup, soit à la Mélenchon qui dit révolutionne.
Ouais, donc toi tu dis qu'il faut forcément une offre radicale.
Du coup, ce que tu décris, c'est exactement l'homme providentiel.
Mais
hein,
ce que je dis c'est que vu l'attente des Français qui est faut qu'un homme nous sauve, il peut y avoir que ce genre d'homme radical. Et c'est pour ça que je disais et que je l'avais dit à Jordan Bardella ici que leur stratégie bien habillée, un coup comme ci, un coup comme ça, on veut fâcher personne, ça ne marchera pas.
Oui, et en même temps les gens
Jordan, on va terminer avec Leïla, bonjour. Leïla de Marc-Barreul dans le Nord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Leïla? qui pour aller au deuxième tour?
Mélenchon, je pense que moi personnellement, j'ai plus d'espoir en lui. C'est bien, les jeunes aiment ce côté je la ramène, je casse les codes, mais derrière il y a pas de fond. Donc aller derrière lui, c'est un peu suivre une autre doctrine. Donc elle parlait de doctrine, là on irait vers une doctrine. Il faut aller vers du concret, il faut aller vers des choses qui nous ramènent aux valeurs travail aussi. Donc les valeurs travail, c'est aussi on a besoin d'aide et tout ça, mais savoir que concrètement là, c'est la responsabilité de tous les Français. Donc aujourd'hui, c'est peut-être préparer les présidentielles différemment, les préparer, les anticiper, mais peut-être même dans le mode opératoire des élections, peut-être anticiper cette voie-là, c'est-à-dire se poser et se dire est-ce qu'on ne le ferait pas, on ne découperait pas, on construirait les choses différemment, et on ne peut pas tout changer. Mais en tout cas, aujourd'hui, on doit arrêter tout ça, c'est-à-dire que blabla, droite, gauche, etc. Si on continue comme nos parents, Le Pen à l'époque, et avec tout Mitterrand, etc. Non, on arrête. Il y a des bonnes choses dans tout, voilà, et il y a des très mauvaises choses. N'allons pas vers ce à quoi, ce qui nous éloigne de l'humanité, quand même. Actuellement, c'est un peu quand même...
Donc vous voyez plus Édouard Philippe, vous, du coup.
Ah mais c'est, je pense que.
Mais lui, en fait, ce que vous nous décrivez, c'était le projet à Macron il y a 10 ans, hein.
De Macron.
Ah bah c'est effectivement, mais là aujourd'hui Macron, il y a ce côté, c'est un petit peu le reflet d'aujourd'hui. On est quoi? On est tout seul. Il y a certainement des bonnes choses. Il y a quand même des bonnes choses. Mais là aujourd'hui, ça part complètement pour les avantages de l'un, pour les avantages de l'autre.
Je comprends rien ce que dit notre auditrice.
Vous, non?
Je comprends rien à ce que vous dites, madame. Je suis désolé, mais je comprends pas ce que vous dites. Mais c'est marrant parce que vous soutenez le Bloc central.
Oui.
Vous êtes à l'image de ce Bloc central. On ne comprend pas ce que vous voulez. C'est intéressant d'ailleurs, psychologiquement.
Parce qu'elle veut un peu tout en même temps.
C'est une famille politique pour les gens qui savent pas où ils habitent.
De toute façon, la discussion est terminée. Laïla, on aura l'occasion d'éclaircir les choses lors d'une prochaine discussion à propos de cette élection présidentielle. On est en pré-campagne,
Je rappellerai qu'en 2017, enfin, si on se projette en 2016, donc un an avant 2017, Emmanuel Macron n'était toujours pas candidat à l'heure où on parle.
Il n'était pas sondé.
Il n'était pas candidat en mai 2016. Donc
alors, on a posé la question, à votre avis, Philippe Mélenchon, aujourd'hui, là, est le mieux placé pour aller au second tour. Laïla nous disait à l'instant, Édouard Philippe. Et ben là, c'est Jean-Luc Mélenchon. 54,1% face à Édouard Philippe, 45,9%. Allez, dans un instant, on va s'intéresser à la future fête. Si jamais le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, les autorités disent que ce sera la parade et la foule, ce sera au Champ de Mars. À condition que la célébration du titre, la veille au soir, ça se passe bien. Ah bah voilà. Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
One, two, three, 11h20, vous êtes avec les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Barbara Lefebvre, Didier Giraud et Charles Consigny. On va regarder ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer en cas de victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. C'est samedi à Budapest. Alors, le match, c'est samedi à Budapest à 18h. Si le Paris Saint-Germain gagne, il y a intérêt à ce que ça se passe bien, s'il doit y avoir une célébration le lendemain au Champ de Mars.
Bah, ça s'est mal passé l'année dernière, souvenez-vous. Ça a été un chaos dans Paris. Donc là, on reprend les mêmes. Et d'ailleurs, ce sont toujours les mêmes au pouvoir. Alors, Laurent Nunez était préfet de police, là, il est ministre de l'Intérieur. Mais forcément, il y a une grosse pression à la fois sur la préfecture de police, et M. Faure qui est au préfet de police maintenant, et au ministère de l'Intérieur pour que ça se passe bien. Sachant que c'est à 18h samedi, les Champs-Élysées seront fermés samedi, donc pas de célébration spontanée le samedi soir. Tout sera quadrillé, nous dit-on. En revanche, si ça se passe bien samedi, les supporters auront le droit de célébrer leur équipe qui sera là au Champ de Mars. C'est le site qui a été choisi au pied de la Tour Eiffel, pour expliquer ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est vraiment au pied de la Tour Eiffel. D'ailleurs, l'année dernière, c'était le site qui avait été choisi. C'était pas possible. Au dernier moment, ils ont pris les Champs-Élysées et ça s'était mal passé. Alors, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que le Champ de Mars, c'est un bon choix? Et pourquoi, finalement, à Paris, n'arrive-t-on pas à célébrer tranquillement dans la joie et la ferveur l'équipe parisienne, comme on a pu le faire à Lens où ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de violence et pourtant il y a eu la fête, une fête dingue comme jamais dans les rues de Lens toute la journée de samedi.
Moi,
la soirée de samedi et dimanche.
J'arrive pas à comprendre c'est quoi ce problème à Paris. J'ai vu les images de Lens, bien sûr. J'ai vu les images de Bordeaux aussi, où les joueurs de rugby ont ramené la Coupe d'Europe, c'était bondé. Enfin, ah oui, il n'y a pas eu un seul coup de couteau, il n'y a pas eu un seul magasin cassé, il n'y a pas eu.
Le rugby ne suscite pas la même.
Mais Lens, c'est le foot.
Non, mais Lens, c'est du foot.
C'est,
hein.
C'est pas le problème, c'est pas le foot.
Mais tu vois, il y a tout qui est différent. Les joueurs de Lens, ils ont pris la Coupe de France sous le bras, ils se sont dépêchés de monter dans le bus plutôt que de faire la fiesta à Paris, parce qu'ils auraient pu aller en boîte à Paris, et ils sont rentrés dans leur stade où il y avait 40 000 supporters qui les attendaient à 3h30 du matin et qui étaient restés dans le stade en les attendant. Enfin, je pense qu'il y a aussi quelque chose de différent du côté des joueurs. Enfin, le club est différent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et après, derrière ça, pour moi, il y a quelque chose de très simple. C'est effectif. Et puis une chaîne de commandement qui s'assume, effectif de policiers, et une chaîne de commandement qui s'assume, qui donne des ordres de maintien de l'ordre clair
et c'est-à-dire pas la voiture de police qui recule.
Le premier qui jette un pavé dans une vitrine Givenchy ou je sais pas quoi pour aller piller, c'est du maintien de l'ordre.
Dans cette façon de faire, de menacer d'ailleurs, si vous êtes comporté pas bien, il y aura rien le lendemain. En fait, parce que c'est une minorité toujours. Donc en fait, c'est la minorité qui impose sa loi et qui pénalise la majorité qui a envie simplement de faire la fête.
Les mecs qui sont 200, il y a qu'à leur rentrer dans l'art, quoi.
Un vrai supporter, je suppose, n'étant pas supportrice du PSG, oh là, quand bien me fasse.
Et tu viens en famille.
Mais un vrai supporter du Paris Saint-Germain, il a eu qu'une envie, c'est que son club gagne et de fêter ça. Je crois que les racailles qui cassent les boutiques, qui hurlent, qui parfois d'ailleurs brandissent des drapeaux autres que le Paris Saint-Germain dans ce genre de festoiement, ils en ont mais rien à faire. Des menaces de si t'es bien sage samedi, t'auras une fête dimanche. Mais ils s'en foutent complètement, ils ne sont pas supporters du PSG, ils viennent fourcasser.
On donne des ordres aux policiers.
On fait ce qu'a dit Didier, on demande à la police que la voiture, non pas recule, quand un taré t'incendie une poubelle, mais qu'elle avance la voiture de police et qu'elle pourchasse celui qui brûle la poubelle. Aujourd'hui, on a des policiers qui ne sont pas équipés pour poursuivre les assaillants
qui n'ont pas l'ordre. Ils sont prêts à le faire.
Mais bien sûr qu'ils sont prêts à le faire.
Le témoin au 32-16.
Mais bien sûr qu'ils sont prêts.
Qu'on leur donne les ordres.
Est-ce que Monsieur Nunez pourrait prendre tout ce qui convient pour aller avec son préfet de police pour sortir la grosse artillerie et y aller franchement.
Rendez-nous le préfet l'allemand.
On a
rendez-nous le préfet l'allemand.
Le préfet l'allemand était caricaturé en Asie.
Hein. On a Armand qui est avec nous. Bonjour Armand.
Que tous les Allemands n'étaient pas nazis.
Bonjour Armand.
Pas d'essentialisation. La raison Charles. Il a raison Charles de
modérer. Vous êtes dans les Yvelines, supporter parisien. Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer samedi soir et que ça se fera au Champ de Mars ensuite? Dites-moi.
Alors moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est que sur ce samedi-là, il me semble 5 grandes manifestations dans Paris.
C'est vrai. Il y a des concerts,
Ouais, voilà, il y a des gros.
Il y a Nakamura qui est au Stade de France notamment.
Il y a Damso qui est pour sécuriser l'événement du PSG.
On manquerait de policiers en France?
Ah bon, comme vous pensez. Et comme disait Barbara, je rebondis sur ce qu'elle a dit parce que c'est la stricte vérité. Nous, en tant que supporters, on va venir supporter, on va venir fêter et on va rentrer chez nous. Moi, je suis père de famille. L'année dernière, j'étais au Parc des Princes avec ma famille.
Ouais, le parc qui se réouvre.
Voilà, on est sorti après le Parc des Princes. On a fêté sur Saint-Cloud, sur la porte de Saint-Cloud. Bon, malheureusement, on est resté une heure parce qu'après, il y a une voiture qui a brûlé. Et je vous garantis que c'était pas des supporters du PSG qui étaient en train de brûler la voiture, hein, ou même les départements.
Et là, vous serez au parc samedi encore ou pas?
Non, là, pour le coup, non. Là, je vous avoue que, voilà. Quand j'ai vu qu'il y avait les cinq manifestations, je sais que je vais y aller avec mes enfants et tout. Et bon, voilà, je me suis dit.
Et dimanche, si ça se passe bien, le dimanche, vous pourriez aller au Champ de Mars ou pas?
Ah oui, si ça se passe bien, par contre, oui, le dimanche, oui. Oui, ça, par contre, si victoire il y a, oui, il y a possibilité que je sois sur le Champ de Mars.
Mais ce qui est triste aussi, Armand, c'est que le Paris Saint-Germain gagne ou perde, Il y aura des échauffourées en plus. Donc c'est ça qui est encore pire.
Je suis d'accord. Et on sait d'où ça va descendre, d'où les gens vont descendre pour venir foutre le bordel. Et c'est ça qui est encore c'est ça qui est vraiment triste. C'est que c'est pas des supporters. J'insiste vraiment là-dessus. C'est pas des supporters. Je vais au Parc des Princes depuis de nombreuses années. Sur tous les matchs du Haut Parc des Princes, il n'y a rien. Il n'y a pas d'insécurité. Il y a
plus rien.
Tout est sécurisé. Tout est sécurisé, vraiment.
Et c'est vrai.
Voilà, mais oui, ils ont vraiment fait le ménage.
Non, mais
ils ont fait le ménage. Par contre, c'est vrai que voilà, vous prenez n'importe quel événement sportif sur Paris, que ce soit un match de l'équipe de France et tout, dès qu'il y a une victoire, une manifestation, il y a des débordements. Et quand vous prenez Lens, vous prenez Bordeaux, il y a rien du tout. C'est un constat, c'est un fait. On peut pas.
Le préfet du Pas-de-Calais s'en est félicité dans un communiqué en disant c'est formidable, une soirée festive, tout s'est bien passé. Merci aux supporters, aux forces de l'ordre. Il a remercié tout le monde. Mais comme si c'était finalement.
Oui, mais ils ont peut-être moins de Kaira. Il faut dire les choses comme elles sont.
Oui, voilà,
qui foule le bordel, ce sont les racailles habituelles. Qu'on a encore vu à la Baule ce week-end, puisque maintenant même à la Baule. Les gens vont là-bas pour avoir la paix. Bah non, là aussi il y a des Kaira qui se foutent sur la gueule. Et là, ce sera la même chose. Ah, c'est malheureusement ces racailles désœuvrées dont on n'arrive pas à faire quelque chose, à les faire rentrer dans la société et qui indéfiniment sur certains matchs cassent tout sur leur passage.
Le problème, il y avait un policier qui racontait que justement le soir d'après match. Il voit beaucoup de gens arriver et certains, ils ont simplement des écharpes du Paris Saint-Germain. Ils n'ont rien à voir avec les supporters du Paris Saint-Germain, mais ils mettent des écharpes du Paris Saint-Germain ou des casquettes ou des, et puis ils se mêlent ensuite aux supporters.
Ouais,
alors que c'est pour mettre la pagaille. Mais le discernement est compliqué dans ces cas-là pour tous ceux qui arrivent avec le RER ou autre, quoi.
Dans les 400-500 fauteurs de troubles, je pense qu'il y en a déjà 90% qu'on a l'affiche.
Non, mais la question est de savoir qu'on les interpelle. Alors, déjà, il faut interpeller les bons, ceux qui courent. Parce que généralement, on interpelle ceux qui courent moins vite, mais c'est pas forcément celui qui a commis le plus grand délit. Après, c'est savoir quelle est la réponse judiciaire aussi derrière. Quelle est la réponse pénale? Est-ce que c'est dissuasif? C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui s'en étaient pris l'année dernière au magasin, aux policiers, est-ce qu'ils ont été suffisamment condamnés pour qu'on soit sûr qu'on les retrouve pas cette année? Parce que si on retrouve les mêmes chaque année, c'est sûr que c'est un combat sans fin.
C'est l'impunité.
Ils sont faciles à prendre, mais deux, tu fais rien.
On a Romain qui veut intervenir aussi dans les GG, dans les grandes gueules. Romain, bonjour. Romain de Haute-Savoie, après Armand des Yvelines. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Romain?
Salut à tous les GG.
Salut, Romain.
Moi, personnellement, du coup, je pense que ça va partir en vrille. Comme j'ai envie de dire à chaque fois, même si on va trouver peut-être une fois ou deux où c'est pas parti en vrille. Mais pour moi, dès qu'on parle de Paris, tristement, hein, j'adore le PSG, mais tristement, dès qu'on parle de Paris et de festivités sportives liées à ça, ça part systématiquement en live. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que je pense que, comme beaucoup de chroniqueurs en ont parlé, hier aussi, ça a été dit qu'il y a la ferveur d'un club, c'est-à-dire la fierté d'un pays, la fierté de sa ville, la fierté de son département, comme Lens peut avoir. On en parlait tout à l'heure de Lens.
Ouais.
Il y a une vraie fierté, il y a une vraie ferveur du club. C'est-à-dire que le mec qui bosse à l'usine, il va retrouver le chirurgien au club et ils vont être unis dans la victoire, etc. Et il y a des clubs qui sont, du coup, qui ont plus cet ADN de la ville. Le PSG, pour moi, personnellement, c'est triste, mais ça n'a plus l'ADN de Paris. C'est un club mondial.
Ah non, ça a l'ADN du fric.
Exactement.
Wow. C'est plus le Qatar, bah ouais, c'est
tout. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Il reste des vrais supporters du PSG, qui étaient des supporters du PSG avant le Qatar.
Ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires.
En plus, je parle vraiment du club en
lui-même. Il y a d'excellents joueurs au PSG.
L'identité du club aujourd'hui, c'est fric, c'est tout.
Non,
mais c'est pas ça qui fait descendre des mecs avec des capuches qui veulent casser les vitrines de banlieue. C'est pas ça.
Laissez parler Romain.
Ça n'a rien à voir.
Et du coup, exactement. Donc, c'est pas ces supporters-là, en fait, qu'on va voir dans la rue. C'est tous ces mecs qui vont arriver à droite, à gauche, etc., qui n'ont rien à foutre du foot, qui n'ont rien à foutre de tout ça, qui sont juste là pour, piller, taper,
Mais pardon, mais c'est les mêmes qu'on retrouve dans les manifs. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. C'est une opportunité pour certains.
C'est les mêmes
parce qu'il y a la foule et que c'est le bazar de s'introduire dans ces cortèges et autres et d'aller casser, d'aller voler et de s'en prendre aux policiers. Mais si, ce sont les mêmes. C'est les mêmes qu'on retrouve dans les manifs.
C'est les mêmes à Naël.
C'est l'opportunité. C'est de l'opportunité.
C'est pas les blocs. Allez-y, Romain.
Et je trouve que le PSG, en fait, pour ces gens-là, c'est une opportunité énorme. On sait très bien que dehors, il va y avoir des dizaines de milliers de personnes.
Oui, ça appartient un peu dans tous les sens.
Plus il y a de gens, plus il y a de gens, plus il y a d'opportunités pour les casseurs, pour tout, etc.
Parce que
ils
se mêlent à
aussi dépasser. Comme on disait, il y a d'autres événements qui vont être là en même temps. Les forces de l'ordre vont encore être dépassées, tristement. Et puis, la répression est jamais assez forte. Je vois dans plein d'autres sports, je suis un amoureux du sport, du coup, je regarde tous les sports, on va dire, beaucoup de sports co. À part le foot, dans aucun autre sport collectif, quand vous avez une célébration d'un titre ou quoi que ce soit, ça part avec des bagarres meurtrières par moment, des vols, des casses, etc. Vous prenez le basket, même le football américain, qui est un sport un peu machin, le rugby, etc. Ça part jamais, parce que je pense que...
Parce que ça n'intéresse pas les racailles, excusez-moi.
Exactement, il y a moins d'opportunités.
Le rugby, ça intéresse les pulls sur les épaules.
Exactement.
C'est pas le même public.
C'est pas le même public.
C'est ça, tu veux dire ?
L'opportunité d'avoir ce public un peu plus bourgeois avec Paris fait que systématiquement, il y aura des gens qui vont profiter du bon chaos ambiant, parce que le chaos peut être sympa, hein. On rencontre quelqu'un, c'est inespéré, c'est inattendu, c'est un genre de forme de chaos, et ils vont transformer ça en mauvais chaos.
Je peux vous dire.
Ils n'attendent que ça.
Ouais, Romain, que à mon avis du côté des immeubles autour du Champ de Mars, on doit commencer à baliser en se disant.
Oui, parce que c'est plutôt chic, hein.
Ah oui.
C'est, alors après, il y a peu de magasins. Je pense qu'ils choisissent le Champ de Mars aussi parce que contrairement aux Champs-Élysées où tu as beaucoup de vitrines à casser entre guillemets, là le Champ de Mars n'a pas de magasins. Ouais. Hein.
Alors le Champ de Mars en journée aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que les touristes sur leur guide aujourd'hui, on leur dit de ne pas y aller parce que en dehors des détritus, vous avez aussi des pipes. Pickpocket particulièrement agressif sur le Champ de Mars.
Qui s'en prennent aux touristes.
Très vindicatif.
La famille royale, parce qu'en fait, la Tour Eiffel est là. Bon, a d'ailleurs un hôtel particulier sur le Champ de Mars.
Allez, dans un instant, le duel Consigny, Anne Consigny, Charles Consigny. Restez avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.